J'ai intitulé ma présentation En el silencio escribo, le lyrisme en sourdine dans les prisons franquistes, précisément parce que le séminaire s'appelant Silencio, s'intitulant Silencio, j'ai eu envie de m'intéresser plus particulièrement au silence dans les prisons. Je voulais en parler aussi bien en termes contextuels de censure, autocensure, clandestinité, qu'au niveau des poèmes eux-mêmes, au niveau des thématiques. Et je me suis rendu compte qu'il m'aurait fallu 3 heures pour parler de tout ça. Donc je vais simplement exposer en introduction le contexte, justement ce contexte de silence, de demi-silence. Et je me consacrerai essentiellement au silence tout au long du quotidien du prisonnier qui est reflété et qui est sublimé dans les poèmes. Bien sûr, ensuite, dans les questions, je pourrais approfondir certains points. Donc, En el silencio escribo, c'est un vers de Marco Sana et je reviendrai dessus en parlant de la clandestinité. On peut définir le lyrisme, pour ceux qui ne sont pas très familiers de ce concept, on peut définir le lyrisme comme la subjectivité en poésie, l'expression de la subjectivité. Et précisément, dans les prisons, il y a une négation de cette subjectivité, un silence est fait sur l'individu est passé sous silence et mis en sourdine. Et donc je vais m'intéresser à comment justement il y a une place pour ces voix subjectives à demi-mot dans les poèmes de prison. Donc tout d'abord je m'intéresserai en introduction au silence de l'écriture imposé par le pouvoir franquiste. À travers tout d'abord la censure qui est mise en place dans les prisons du premier franquisme dès 1939, mais même dès 1936 dans certaines régions, puisque tout dépend de l'avancée du camp nationaliste, et jusqu'à la fin des années 40 globalement. Parfois on fait aller le premier franquisme jusqu'à la fin des années 50, mais globalement c'est la période de la victoire qui est marquée par la victoire et donc la répression accrue sur les républicains. Les valeurs de ces républicains sont tues et réprimées. Elles sont substituées par celles du nouveau régime. Par exemple, ils doivent entonner l'hymne phalangiste car al sol et faire le salut fasciste dans les cours de prison. C'est obligatoire jusqu'en 44. Je crois que j'ai une photo ici de ces prisonniers contraints de chanter l'hymne, ici à Santander. Les prisonniers sont également rééduqués, voire fusillés, pour s'être rebellés. C'est le mot utilisé par les franquistes. Bien sûr, ils se sont rebellés contre un coup d'État qui lui-même s'érigeait contre la République élue démocratiquement. Mais ils sont donc jugés pour s'être rebellés contre le coup d'État. Et leurs écrits, par conséquent, sont rationnés. Ils ont droit, en général, à une lettre tous les 15 jours. Ils ont droit d'envoyer une lettre tous les 15 jours, en théorie, puisqu'il y a des passe-droits et, au contraire, certaines prisons qui ne respectent pas cette règle. Et bien sûr, cette lettre est lue par le censeur, qui est en général en prison le chapelain de la prison. Donc pour ça, je vous renvoie à Verónica Sierra Blas, qui, dans son ouvrage Cartas Presas, s'intéresse très, très longuement à ces lettres de prison, à ces correspondances. Et donc cette censure, en ce qui concerne la poésie de prison, elle va se manifester en particulier par le fait que les seuls poèmes qui sont officiellement autorisés sont ceux qui sont publiés dans la revue Redención, donc qui est un peu la norme poétique pénitentiaire. La censure pénitentiaire n'autorise officiellement que les vers de propagande, donc, dans ce journal, dans cet hebdomadaire qui est fait par les prisonniers et pour les familles. Et il se dégage ainsi en prison une norme poétique, un canon du lyrisme, en parallèle de celui que l'on retrouve hors des prisons, dans les cercles propagandistes et phalangistes, où prédomine le sonnet et l'éloge des valeurs du nouvel État national catholique, et contre laquelle la plupart des poètes vont bien sûr s'inscrire en faux. Donc ces valeurs que l'on trouve dans Redención, elles sont principalement spirituelles et religieuses d'abord. On voit par exemple l'importance du calendrier liturgique, comme ici Voilà, j'ai projeté un poème à la Vierge de la Merci, donc la patronne des prisonniers. Mais on trouve aussi de nombreux poèmes pour la Semaine Sainte, Noël, les rois mages, tous les moments importants du calendrier liturgique, des hagiographies, bien entendu, des figures du catholicisme, comme Sainte Thérèse d'Avila. Il y a aussi des valeurs politiques et nationalistes, notamment des vers qui célèbrent la geste patriotique, l'épopée du peuple espagnol selon le franquisme, notamment autour de la date du 2 mai, qui célèbre la victoire des Espagnols contre la France en 1808, ou l'éloge de la conquête des Amériques en 1900, le 12 octobre, pardon. Et enfin, il y a des valeurs sociales qui sont véhiculées à travers une propagande paternaliste et conservatrice de la famille, où prédomine l'amour chaste, la piété filiale. Bien sûr, il n'y a aucune place pour la subversion érotique. Et donc la parole poétique des républicains emprisonnés est ainsi phagocytée par le nouveau régime. Le pouvoir pénitentiaire utilise ces poèmes à des fins d'exemplarité pour la repentance des autres républicains. En 1941, par exemple, on voit l'élaboration d'une anthologie qui s'appelle Musa Redimida à partir de poèmes publiés dans Rédemption préalablement. Et de nombreuses déclamations publiques ont lieu et sont médiatisées dans Redemption. Par exemple, José Condé récite le poème Esta Mañana dans la prison de Santander le 18 avril 40. Et je cite, l'évêque de la ville, le docteur Uteco, qui se trouvait parmi le public, après l'avoir écouté, aurait intercédé pour obtenir sa libération. Ainsi, certains poètes anarchistes, même des poètes anarchistes du romancero de la guerre civile, comme Félix Paredes ou Valentín de Pedro, ont collaboré dans Redemption. Alors, par soumission à l'instrumentalisation idéologique ou par opportunisme, on ne peut pas le savoir, mais les deux voies coexistent et sont possibles. J'aimerais citer également l'écrivaine María Teresa Andrueto, qui dit dans un entretien: Un exiliado es alguien que debe vivir en estado de camuflaje. Donc ça, c'est très intéressant pour votre thème de silencio. Cette dernière tente ainsi de définir l'insilio, une hétérotopie conditionnée par le silence imposé à l'insiliado par opposition à l'exiliado. Je la cite, la condition principale del insilio es el silencio, un silencio que va más allá del no hablar. Un exiliado es un silenciado. No solo es silenciado porque no se puede hablar, sino porque no quiere ni debe ni puede ser visto, oculto, aun cuando no esté escondido. El miedo hace que se esté sin estar intentando simular otro. En revanche, à l'opposé de cette vision qui bien sûr permet de comprendre et même de justifier ces postures de collaboration avec le pouvoir, le philologue pardon, marxiste David Becerra affirme « le silence est toujours une forme de complicité avec le pouvoir ». Et les effets, récompenses ou châtiments pénitentiaires dans notre cas, puisqu'en déclamant pour l'exemple ou en publiant dans Rédemption, les auteurs obtiennent des remises de peine ou des visites supplémentaires, sont souvent différents selon que le poète choisit de se taire en se cantonnant à des écrits non subversifs ou de dire justement le dissensus dans des vers plus ou moins subversifs, voire offensifs. Mais il existe plusieurs alternatives à ce pouvoir, plus ou moins compromettantes. L'autocensure, la clandestinité, et entre les deux, une troisième voie dont je parlais et que j'évoquerai ensuite, que j'évoquerai maintenant, pardon. En parallèle du phénomène de la censure et de la propagande, dans ce contexte, il convient d'analyser un phénomène particulier, observable dans la plupart des publications qui paraissent sous le premier franquisme et symptomatique du silence imposé notamment au lyrisme par la culture de la victoire dont je parlais, qui est une expression de José Carlos Mainer. Dans ces publications individuelles des années 40 et 50, hors Redemption bien sûr, les auteurs camouflent fréquemment, volontairement ou inconsciemment, l'incarcération. Le silence contextuel est palpable, par exemple, dans le paratexte. Dans sa trilogie carcérale publiée entre 49 et 51, alors qu'il est encore sous les verrous, Cristóbal Vega n'appose aucune mention contextuelle de temps et de lieu de création et reste évasif sur la souffrance proprement carcérale qu'il expérimente. La prison est absente, si ce n'est dans le titre du poème « El tiempo a través de las moscas de mi celda », dont la dimension humoristique adoucit la portée potentiellement subversive. Il en va de même dans les recueils suivants, publiés entre 53 et 60, à l'exception du dernier, El Barco Varado, précisément sans doute parce qu'il paraît en Uruguay et dans le cercle limité des anarchistes de cette capitale. Les poèmes qu'il publie dans la revue Cumbres à la même période subissent le même procédé de décontextualisation. Et d'autres formes de censure plus évidentes sont à l'œuvre lorsqu'un mot ou un vers est substitué par un autre dans une version manuscrite. Le baléar Pere Capella, un auteur que j'ai découvert après ma soutenance, par exemple, compose une ode au lever du soleil, au lever de soleil depuis la prison d'Alcala, où la stridente exécution sommaire, je le cite, de una descarga cerrada, devient le chant d'un oiseau, de una corneja que grazna, dans une autre version. Plus intéressant encore, l'euphémisation des cris des sentinelles sur lesquels nous reviendrons, je le cite, « Los gritos de sentinela alerta, el silencio rasgan » devient ensuite « Un alerta retardado, soñoliento se desmaya ». De même, les versions manuscrites successives de « Maldita seas » de Jesús Cancio, qui est publiée en 85 seulement, même si c'est écrit en prison, révèlent le même type de dissimulation. La prison de Torre la Vega est simplement la Torre del Pandilla. L'entrée de la Guardia Civile devient l'arrivée de la Escolta Servil. Et la chapelle sinistre où sont menés les condamnés à mort devient una estancia siniestra. Et le Christ, enfin, se fait compte. Et pour finir sur cette introduction, une alternative à cette autocensure au double jeu, souvent citée dans les témoignages, car plus dangereuse sans doute, est le recours à la clandestinité. De la création nocturne à la diffusion, bien sûr, par exemple dans des objets à double fond. Le poème métalittéraire « La noche es mi refugio » de Marco Sana, auquel j'emprunte le titre de cette communication, insiste sur la difficulté de créer et conserver une poésie clandestine à travers la métaphore nocturne et silencieuse des yeux et des clés endormis. « La noche es mi refugio, siempre os hablo cuando duermen los ojos y las llaves. En el silencio escribo. Al silencio le arranco sus hojas más vibrantes, campanas que me aturden bajo el grito de alertas implacables. Escribo sin descanso palabras verticales, prendo mi voz como un fuego en el monte, y oigo sonar la sangre del mundo en mis umbrales. Después, cuando amanezcan los ojos y las llaves, me guardaré la voz en un zapato y aromarán las losas mi mensaje. Nous reviendrons sur ces alertas implacables qui interrompent le silence de la nuit clandestine, mais soulignons que plusieurs autres poètes ont créé de nuit, comme José Luis Gallego qui le consigne soigneusement dans le paratexte, dans son paratexte, ou Miguel Hernández qui aurait composé Sepultura de la Imaginación de mémoire, la nuit, après le toque de silencio, donc ce moment où on invite les prisonniers à se taire. Et donc, Miguel Hernández composé ce poème à la prison Conde de Toreno avant de pouvoir le transcrire selon le témoignage de Güero Vallejo. Donc, dans ces deux poèmes manuscrits de Gallego, je vous ai indiqué, c'est vrai que c'est un peu loin, mais les flèches montrent le paratexte qui indique Noche de Tal Día. Et dans le deuxième, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il écrit de nuit, mais en plus depuis une cellule d'isolement, donc doublement clandestin. Marco Sana insiste sur l'épopée d'une revue carcérale clandestine dans Carta a Nuestros Amigos de América Latina, pour la revue Muro, qu'ils ont fabriqué en quelque sorte clandestinement à Burgos. Et ce témoignage corrobore justement le poème que je viens de lire de Marco Sana. Imaginad el audaz proceso que sigue la elaboración de una revista en la cárcel. Pensad en cada colaborador trabajando en la noche silenciosa, sobresaltado por los alertas y las rondas de funcionarios. En ocasiones, cuando todo está terminado, hay que romperlo para volver a comenzar a los pocos días. Y esta operación de romper y rehacer puede repetirse 2, 3, 4 veces, convirtiéndose en un auténtico trabajo de Sísifo. Después hay que salvar los muros y hacerla llegar a su destino. No sé qué caminos misteriosos abren los presos en las noches de sus cárceles, pero su voz es invencible. Cela corrobore effectivement sa précédente vision romantique de la création poétique en prison et clandestine, mais il faut cependant en relativiser le degré de subversion. Il ne s'agit pas de nier la difficulté de composer des vers de résistance dans ce contexte de répression arbitraire, mais de souligner le caractère relativement exceptionnel de ces situations. Ce sont souvent des compositions d'abord de mémoire, et nombre de poèmes sont transmis semi-clandestinement, sous le regard bienveillant ou corrompu des surveillants, parfois insérés même dans des lettres pourtant censurées, comme dans le cas de José Luis Gallego. Mais elles sont mises en exergue pour rendre hommage, bien sûr, de manière idéalisée à la clandestinité au moyen de la tonalité pathétique. Nous allons voir qu'il était aussi possible de déjouer ce silence imposé par les stratégies de mise en cause à demi-mot, donc ni censure, ni propagande, ni autocensure, ni clandestinité, mais une autre voie vraiment à demi-mot. Il s'agit de dénoncer subtilement entre les vers, donc j'emprunte cette expression et je la détourne de Léo Strauss, qui parle de, entre les lignes, bien sûr. Il s'agit donc de dénoncer subtilement pour contourner la censure pénitentiaire, mais en suivant une troisième voie semi-clandestine entre silence complice et sarcasme impossible. On explorera donc quelques-unes de ces stratégies de dénonciation implicite à travers la présence ambivalente du silence dans ces vers carcéraux, ce lyrisme emprisonné qui est bien sûr marqué de manière omniprésente par le silence. Donc, dans un premier temps, je m'intéresserai à la première étape de cette chronique. Ça va être un peu une chronique de la vie du prisonnier, de sa journée jusqu'à l'aube suivante. Et je commencerai bien sûr par Los toques de silencio, qui marque la fin de la journée. La fin d'une journée mortifère, hein, qui est une routine mortifère et qui est marquée par le temps suspendu. Tout ça configure les ingrédients de la prisonnisation, c'est-à-dire l'intériorisation émotionnelle de la prison par ses détenus, et donc qui transparaît dans les poèmes. Donc la journée du prisonnier et le temps carcéral sont ponctués par la discipline militaire et les coups de clairon. Donc « Toque de silencio », c'est un de ces coups de clairon, que l'on retrouve par exemple dans le titre de la trilogie versifiée pour Redención de l'auteur Joaquín Soto Reguera, qui s'intitule « Trilogía de un preso, Diana Retreta Silencio ». Donc, comme si la vie du prisonnier se résumait à ce rythme ternaire et cette routine enfermante. Cette routine génère une sensation d'ennui mortifère palpable dans nombre de poèmes. Thanatos envahit le lyrisme qui se fait écho du silence imposé. Santiago Sánchez Mora, par exemple, recourt à la métaphore du soleil qui a calciné toute expérience et à une rime en « eo » que vous remarquerez et qui la renforce. Le 12 octobre 37 dans la prison de Cáceres. Je crois que je l'ai... Non, je ne l'ai pas mis, celle-ci. Je le cite. « Día de ceniza, de plomo, de amor seco, de bravo mar y de silencio. » Donc, « seco, silencio » en « eo ». À la réponse presque poétique sur le sens des coups de trompette militaire dont le son imprègne cet espace carcéral, je le cite. « A que tocan, yo siempre creo que tocan a fusilamiento », répond Luis Corona, poète peintre et compagnon de Germán Blayberg à Santander. Donc, Germán Blayberg va utiliser cette anecdote comme exergue de son poème. Et donc, il y répond ensuite par un flux discursif de vers libres qui oppose à l'hypothèse initiale la prosaïque réalité du quotidien carcéral. Les coups de trompette ponctuent simplement les moments de la journée du détenu. Je cite « Como el toque de corneta en el patio, Diana, ducha, desayuno, desfile, despojarse. » Ici, vous voyez que la littération en dental, en début de mot en plus, souligne la dimension répétitive de ces activités et le son qui s'érige en critique implicite de la routine pénitentiaire. Au début de ce poème Sopre un dialogo, Bleiberg a d'ailleurs recours au champ lexical de la lenteur, de la monotonie pour mettre en cause cette routine mortifère. Y los días pesan inútiles y la vida se arrastra negra, deslizándose hacia su origen, sin palabras, sin noches cansada. J'ai mis en évidence justement l'utilisation de l'anapteste, l'apparition de l'anapteste, pardon, qui est deux syllabes brèves suivies d'une longue et qui martèle encore une fois cette monotonie. Donc vous voyez que les figures de style, mais aussi la métrique, peuvent véhiculer la critique en sourdine. Diego San José peuple lui aussi ses vers de tableau de la vie carcérale où surgit, point culminant de cette routine, le toque de silencio dont je vous parlais, cet avertissement sonore paradoxal qui vise à installer le silence en fin de journée, c'est-à-dire notre couvre-feu, associé à la noirceur et à la tristesse. Toque de silencio, rasga la corneta, cierras el rastrillo, se cierran las verjas, se apagan las luces, dejando las celdas en triste negrura hasta que amanezca. L'usage de l'indéterminé, hein, le on en C plus troisième personne, permet d'ailleurs de ne pas nommer les responsables de l'enfermement directement, mais de le dénoncer cependant assez clairement, de manière implicite bien sûr. Et la marche grégaire du temps, le tic-tac de l'horloge de la prison marque aussi cette routine mortifère dans les poèmes de Cristóbal Vega, pour qui le temps carcéral devient une obsession réellement. Ce temps suspendu lui inspire d'ailleurs l'allégorie du bateau à l'ancre, El Barco Varado, son poème le plus représentatif. Et dans El ritmo de las horas, les heures défilent ainsi, telle une marche lente et funèbre, tout en venant se planter lorsqu'elles sont comparées à des poignards, de manière incisive dans les octosyllabes. Je vous l'ai mis en bas. Tic-tac, tic-tac. Caminan silenciosas y graves cual novias con velo negro. Las horas se hincan como puñales en el corazón del tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc la violence métaphorique du temps vient dissimuler, bien sûr, la violence réelle des tortures et des humiliations. Dans un deuxième temps, on va continuer à avancer dans la journée et je vais m'intéresser à la nuit silencieuse, après ce toque des silencieux, à la nuit silencieuse qui, bien que elle comporte ces moments d'angoisse, cependant est peut-être le seul refuge qui reste aux poètes, aux détenus, et donc ça se reflète dans les poèmes. Dame en tu vientre noche silencio hospitalario, vous verrez ensuite que c'est un vers de Marco Sana. Pour revenir à mon propos, pour autant, certains auteurs choisissent le silence, malgré cette routine mortifère, choisissent le silence pour fuir la confrontation avec le pouvoir et chanter simplement leur solitude sous une forme lyrique. C'est le cas de Cristóbal Vega, pour qui ce silence incarne la beauté réellement, comme il l'affirme dans une lettre sur Stefan Zweig à Eugen Regis. Creo que tú, querido amigo, que también conociste a este gran ciudadano del mundo, debieras escribir ese libro en el que por primera vez se diga el silencio, lejos de ser siempre interpretado como una crisis de valores intelectuales y psicológicos, hay ocasiones en que puede ser un magnífico poema de bellezas, de altas abnegaciones y sublimes amores, que no todos los hombres están en condiciones de poder definir. Donc Vega est probablement le poète de la solitude par excellence dans ce corpus carcéral, peut-être aussi parce qu'il est emprisonné très longtemps, jusqu'en 1963. Et s'il se lamente occasionnellement de retourner à sa solitude habituelle, « Te fuiste tu, mi corazón volvió a sentir el frío amargo que siempre experimentaron mis soledades sin prisas », il attribue le plus souvent, quand même, une valeur positive à cette dernière, celle qui le mène à l'exercice spirituel et à l'introspection. Yo bendigo mis horas de inquietudes y el dolor de mis líricas ausencias y ese dardo fatal de los silencios que siento que se clava en mi conciencia. Il revendique donc une introspection à visée non rédemptrice, bien opposée à celle de rédemption, et prend ainsi ses distances avec la rhétorique catholique officielle. Le silence dans toute son ambiguïté est convoqué jusque dans le titre du poème lyrique en prose et en 12 silences, qui est Madre Perlas, un poème de Santiago Sánchez Mora. Le sous-titre est Poema lirico en 12 silencios. Ces 12 poèmes en prose ont été écrits principalement à la fin de son incarcération, avant que le poète ne soit transféré à Pamplune dans un état préoccupant. Le dernier silence est celui d'une journée entière de l'aube à la nuit de la prison. Dans le silence du paradis, une réinterprétation de l'épisode biblique, l'oiseau est par exemple un candido silencio de plumas. Face au silence de la prison, de l'ombre, face à son propre silence, le poète se plonge dans le désert de sa solitude, tel un nouveau saint Antoine pour recréer les mots. Il y dénonce pourtant les faces cachées de l'humanité, où l'on ne peut pas lire en filigrane une critique implicite de la dictature franquiste et son silence rancunier. Je le cite, « Todo está negado de sombra, de silencio de rencores, de stupor de duda. » Derrière cette octosyllabe figée que vous voyez entre l'ombre et la stupeur, se trouve la tragique situation émotionnelle du sujet poétique. La mise en cause des conditions bicarcérales particulièrement rudes dans ce fort de Navarre très froid se poursuit à travers une série de métaphores d'insectes et de reptiles nuisibles, telarañas, escarabajos, alacranes, víboras, pour dire le silence de la prison. Ici encore, le silence est associé à la solitude, bien que sous des apparences reptiliennes bien moins positives que chez Vega. Ay, boca del silencio, que bien muerdes, dardo de soledad, que bien te clavas. Or, l'espace privilégié pour cultiver cette solitude, cette retraite silencieuse, est la nuit, comme le souligne Marco Sana dans un poème différent de celui cité en introduction, Oración en la noche, celui-là composé en alexandrin, enfin en alejandrinos, 14 vers, ce qui est assez rare chez ce poète qui privilégie l'octosyllabe et le romancé. Ce poème constitue en effet une personnification de la nuit sous les traits d'une Vierge Mère et prend les accents d'une prière à l'aspect profane, encore une fois pour se démarquer de Redemption. Dans le vers « Dame en tu vientre noche silencio hospitalario », le silence placé après les mystiches devient matériellement le refuge du ventre maternel qui protège le prisonnier des bruits qui viennent perturber la nuit carcérale, notamment ceux des sentinelles et de l'annonce des exécutions que l'on verra ensuite. Mais la nuit n'est pas seulement synonyme de refuge maternel, elle est aussi le lieu des retrouvailles avec une féminité ou une sensualité réprimée par le franquisme. Et par extension, elle permet de se relier en secret avec les êtres chers séparés par la distance. Dans le silence nocturne, José Luis Gallego donne rendez-vous à son épouse, je le cite, sur l'étoile la plus brillante, à minuit pile, et Ernesto López Parra, dont la femme est également incarcérée, lui promet une rencontre par la fusion des regards tournés vers la lune. La lune est aussi convoquée pour sa lumière, bien sûr, de même que le rayon de soleil venait illuminer parfois les barreaux de la prison, la lumière de l'astre féminin se faufile la nuit pour transformer les silences et les soupirs des détenus dans le poème de Santiago Sánchez Mora où elle est comparée à une couleuvre. Vous l'avez ici, une animalisation qui est doublée d'ailleurs d'une métaphore filée. Blanca luna blanca, que entras en el presidio como una culebra, te enroscas al filo de la medianoche, del alma en silencio te cuelgas, muerdes los silencios y alumbras suspiros, y manchas de nardos de luna la vieja galera. Les nuits de silence sont ainsi propices à l'évasion imaginaire. Léonor Ruy Pérez, qui est une auteure que j'ai découverte récemment, bien après la soutenance de ma thèse, puisque ses recherches sont évolutives et je pense pour longtemps, met en scène, cette auteure, Léonor Ruy Pérez, met en scène à Saturaram, une prison de femmes, dans un poème à son père en janvier 39, cette fugue nocturne sur les ailes de la fantaisie grâce à l'intervention magique de la lune. Cuando dirijo la mirada a lo alto, en las serenas noches de silencio magno, para contemplar los brillantes de su manto, pienso en la inmensidad y en el arcano, y cuando detrás del monte surge la luna, plateando los mares y las llanuras, rompiendo de la noche las espesuras, doy a mi fantasía a las nocturnas. Conquisto el espacio en un momento, y veloz como el rayo en menos tiempo, me halló con mi padre en su aposento, envolviendo mi espíritu, su cuerpo. Il est fréquent que le sujet poétique se projette, comme dans les vers précédents, de manière imaginaire dans le foyer idéalisé. Ici, le présent employé renforce cet effet de réel, cet espoir de s'échapper et de rompre le silence. Mais l'utopie est plus souvent exprimée au futur, en réalité, ce qui est, une fois encore, une manière de nier en creux la réalité carcérale insatisfaisante et inconfortable de manière implicite. Ainsi, les futurs prophétiques utilisés dans le poème d'Angel Joan au nom évocateur « Dentro del silencio », puisque le sujet est enfermé à l'intérieur du silence, mais tente de le fuir, montre à quel point, pour le jeu lyrique, l'espoir d'une parole nouvelle et libérée semblait à toute épreuve. « Una mañana me rasgaré el silencio. Tenderé al sol limpio unos gritos nuevos, los gritos sin rejas que aquí me nacieron. » Estando entre rejas que esencian el dentro. Me haré luz de loco, cegando en el miedo. Donc vous retrouvez ces futurs prophétiques, en gras, et qui participent justement de cette projection imaginaire. Le silence est ici un contrepoint, bien sûr, à la liberté désirée. Et lorsque dans les vers antérieurs, le silence est doté de fonctions positives, quand la nuit devient refuge et évasion pour le lyrisme en sourdine, c'est pour mieux critiquer en creux les journées sous le sceau du manque de liberté d'expression et de sécurité affective. Puisque, je le rappelle, la séparation qui implique le silence des êtres chers est assez terrible entre les barreaux. Ensuite, je poursuis mon parcours chronologique et on arrive bien sûr à toujours cette nuit, mais cette nuit qui est sans cesse interrompue, ce silence nocturne qui est sans cesse interrompu par des alertas. Donc je vais expliquer ce que c'est, surtout pour ceux qui ne sont pas hispanistes. Donc c'est les sentinelles qui crient à travers la prison assez fréquemment, sentinella alerta, pour monter la garde, pour dire leur présence et se relayer. Eh bien, ces sentinelles sont un véritable obstacle au silence, au songe et au sommeil. Face à ce silence refuge, maternel et inspirant qu'on vient de voir, que la nuit offrait aux détenus, Ce mot alerta revient de manière obsessionnelle dans les poèmes de prison du premier franquisme, d'une manière d'ailleurs assez singulière face au reste de la littérature carcérale. Alerta, et sa variante sentinela alerta, permet de dire à demi-mot, bien sûr, les mauvaises conditions de vie dans ces espaces carcéraux, où même les sentinelles sont un obstacle au repos des détenus. Ni le silence, ni les songes, ni le sommeil leur sont garantis. En effet, le paysage nocturne de la prison franquiste, désert et silencieux, est perturbé par le cri de ses gardiens, qui devient un leitmotiv, au point d'envahir tout l'espace poétique. Le fait que Cristóbal Vega Álvarez ait intitulé ses mémoires inédites de prison « Sentinela Alerta », justement, avec des points d'exclamation, est symptomatique de l'importance que revêt ce symbole de l'inconfort dans la vie émotionnelle du prisonnier. Ce même poète, dans « Noche de Levante tras la reja », invoque pourtant le cri de la sentinelle qui habite la nuit de la prison comme un moindre mal pour se défendre contre le vent des côtes de Cadix, puisqu'il est emprisonné au pénal de Santa Maria. Le vent est donc ainsi personnifié, et face à sa colère, la voix des gardiens devient paradoxalement rassurante. Je le cite, tu voz sentinela, tu voz un momento que el viento y en ecos malditos se pierde tu acento. Tu voz sentinela, tus voces de alerta que está en mi ventana, el viento ha pasado silbando, rugiendo, cantando su extraño lamento con voz de centella. L'un des premiers poèmes publiés dans le journal Redemption transmet lui aussi une vision bienveillante des sentinelles de la prison, bien sûr, mais pas leurs cris, en revanche. Ces sentinelles auxquelles l'auteur supplie de ne pas crier pour ne pas réveiller les détenus de Saturaran dont la pensée s'envole durant la nuit. No detenga su marcha, soldadito español. Y cuando el pensamiento se aleje del penal, no grites el alerta. Baltasar Fernandescu également affiche une certaine empathie pour la sentinelle de Yeseria 141, appelée presque affectueusement par le même diminutif de soldadito. Cependant, il implore ce gardien, perché sur la nuit carcérale et couvrant de son ombre le ciel d'un manteau de deuil, et il l'enjoint à se libérer, comme lui, de sa prison invisible pour le laisser voir les étoiles. A veces ensimismado en tu muralla altanera, tienes silencios de estatua, rigidez de bayoneta. A veces bulles, azotas mis ensueños con tu alerta, mortificas el reposo de la noche carcelera. Soldadito prisionero del borrón de tu silueta, soñemos cautivos ambos, yo reo tu sentinela. Sueña tú con verte libre de tus impalpables rejas, mientras sueño que yo huyo embosado en mis poemas. Apártate, soldadito, déjame beber estrellas. Donc le ton ludique que vous voyez est euphémistique et mis en valeur par les images humoristiques proches de celles des avant-gardistes et par des jeux sonores. La paronomase implicite entre ver et beber, que l'on peut rendre en français par voir et boire les étoiles, resémantise d'ailleurs l'expression lexicalisée. Pour autant, la mise sur un pied d'égalité du gardien et du prisonnier, ainsi que l'invitation à une fuite imaginaire vers la liberté, reste discrètement, mais délibérément subversive. Mais le plus souvent, justement, parce qu'il l'empêche de dormir et de rêver hors des limites de la prison, le cri des sentinelles est clairement un symbole négatif dans les poèmes. Luis Corona, que j'ai cité tout à l'heure, rappelle dans ses mémoires Isla del Hombre combien cet écho sonore était désagréable aux prisonniers endormis. Se oían en reto numérico gallardos alertas de los soldados sentinelas. Con odio sonoro caía el eco sobre nuestras cabezas durmientes, transidas en esperanza de republicana victoria. Diego San José lui a recours à une autre stratégie de dénonciation entre les vers, encore cette expression de Strauss, lorsqu'il les animalise, en les plaçant sur le même plan que les insectes nocturnes, mais d'autres poèmes, bien sûr, associent leurs cris aussi aux aboiements des chiens. Et il présente certains d'entre eux dans ses mémoires comme les fanatiques défenseurs de la tragique marionnette qu'il servait pour si peu d'argent. La tragique marionnette, bien sûr, étant Franco. C'est pourquoi dans la Noche en la cárcel, il fait de la voix stridente des sentinelles un cri antipathique qui vient interrompre le sommeil des prisonniers toutes les demi-heures. De media hora en media hora se oye aguda y lenta la voz estridente de los sentinelas. Et au même titre d'ailleurs que l'aboiement des chiens errants qu'on pourrait trouver par ailleurs. Le cri de la sentinelle évoqué par ces trois hexasyllabes courts et incisifs, ainsi que par la rime assonante en « et » « a », vient rompre le silence nocturne et si propice aux rêves et à l'évasion, et renvoie le prisonnier jusque dans son sommeil à son enfermement. Luis Alberto Quesada choisit pour sa part la métaphore végétale du lierre de voix, son poème s'appelle « Hiedra de voces », pour intituler une composition qui met en exergue le coup de fouet de ce cri face au silence sépulcral de la prison. Trayazo que te dice en cada instante que tu vida entre muros está quieta. El alerta se cruza por los muros y el alerta repite los alertas. Los alertas repiten en su habla que la puerta es más puerta qu'otra puerta. Donc ces échos qui empêchent de dormir sont mis en relief par les répétitions de « alerta, repite, puerta ». Le poète Ernesto López Para, pour sa part, lui l'associe dans deux de ses poèmes de prison au « Saba des sorcières ». Dans le premier, la sentinelle pousse littéralement un cri de Saba, « da el sentinela su alerta como un grito de aquelarre ». Et dans le second, un manuscrit encore inédit, ce gardien d'abord associé par l'anaphore du pronom dépréciatif « esse », à la métaphore du spectre qui apporte la mort aux condamnés, puis à celle de la bête sauvage et des sorcières, redevient dans le dernier vers un fils du peuple, comme le prisonnier. Et c'est alerta sentinela, que traspasa la noche del penal, et c'est fantasma que en las sombras vela y lanza al viento su eco funeral. Et c'est pregón que la penumbra barre, et c'est aullido de brujas de aquelarre, es un hijo del pueblo quien lo da. Et dans certains poèmes, il arrive que le cri soit si insupportable, si violent, qu'il se transforme même en une arme tranchante. On se souvient dans les vers précédemment cités de Fernández Cué, du verbe fouetter, azotas, et des baïonnettes. De même, dans le poème Un pájaro en mi ventana de Mario, que Mario Arnold a probablement composé en prison mais publié des années plus tard, le sujet poétique établit un parallélisme synesthésique entre ses cris de sentinelle et des coups de poignard, à la fois froids et traîtres. Qué frías las puñaladas traidoras del centinela cuando perezosamente grita sin cesar, alerta. Sus pasos rudos y graves en mi corazón resuenan y el eco insufrible prende caminos que no me esperan. Marco Sana, qui est emprisonné bien plus tard, et surtout qui écrit bien plus tard, puisqu'il écrit à la fin de son emprisonnement dans les années 50, transmet dans ses vers la même sensation pourtant. Les alertas viendraient tuer l'âme des prisonniers alors qu'elle tente de rêver du monde extérieur. Y los alertas a cuchillo pasándonos el alma, que arropada en su manta siempre sueña con un llanto de alegres bienvenidas. Pasar a cuchillo, je le rappelle, signifie selon la RAE donner la mort en particulier dans un lieu pris d'assaut, et donc l'auteur joue avec le sens littéral du couteau et l'expression figurée. Sans aller jusqu'à utiliser la métaphore, de l'arme blanche, le poète peut mettre en évidence la violence du cri des sentinelles dans la nuit en le transférant au cosmos, symbole généralement positif, lui, en quelque sorte contaminé par cette image négative. Tantôt c'est le cosmos qui est personnifié sous les traits de la sentinelle, tantôt c'est le cri de la sentinelle qui se cache derrière une métaphore cosmique, comme chez José Luis Gallego, la furieuse étoile filante, Furioso Cometa, ou les nuages noirs décrits par ce dernier à Neruda, qui soulèvent le cœur, compactos nubarrones de alerta, 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 hasta el mareo. Enfin, cette violence verbale et symbolique est rendue en mettant en scène le cri au sein même de l'espace poétique. José Luis Gallego, encore lui, conçoit tout le poème « Décima sobre mi mismo » de cette manière. Le cri « Alerta » de la sentinelle vient interrompre la voix poétique à la fin de chaque décima et à 5 reprises. Les deuxième et troisième interruptions sont représentatives de cette rupture sonore et visuelle d'un vers scindé en deux. Has llorado, alerta, hasta el mismo albor, cual si fuese, alerta, un mar. De plus, la modification de l'orthographe du mot alerta que vous voyez, auquel est ajouté un accent sur l'avant-dernière syllabe, pourtant déjà tonique, et dont toutes les voyelles sont dédoublées, permet d'accentuer textuellement son intonation violente. Et le leitmotiv du cri des sentinelles, que je pense vous avez maintenant cerné, Alerta, qui à la fois rompt le silence maternel de la nuit et le rend plus humain, contribue à tisser un réseau de témoignages lyriques qui critiquent à demi-mot les conditions de rétention sous le premier franquisme. Dans ces prisons, on ne peut pas bien longtemps rêver en silence, et le sommeil, menacé par la mort qui rôde, n'est que léger. Ce cri lancinant, Alerta, qui vient perturber la nuit des prisonniers et fragmenter l'espace poétique, prend tout son sens dans des vers qui tentent de résister à la répression pénitentiaire et à la mort. Le texte dit alors la réalité de l'emprisonnement par des cris autant que par des silences. Mais il arrive que parfois la souffrance en prison soit si forte que les mots du langage courant ne suffisent plus pour rendre compte de ces mots inexprimables. Le vers comme l'art, face à cet échec, se révèle être un moyen d'inexprimer l'exprimable, selon la formule de Roland Barthes, comme nous allons le voir dans une dernière partie consacrée à ce moment charnière de l'aube, souvent messagère d'exécution, mettant fin ainsi à une nuit à la fois faite de songes et d'inquiétudes. L'octosyllabe utilisé comme titre de cette dernière partie, y el ruido de los cerrojos, est issu d'un quatrain du poète amateur Andrés Ortiz Morán, transmis par le fils d'un de ses co-détenus, Antonio Martínez y Ferrer, et il souligne, cet octosyllabe, il souligne bien cette interruption du silence par l'aube messagère de mort, le moment où les gardiens venaient, liste en main, chercher les prisonniers à exécuter ce matin-là. Ce quatrain qui figure dans une lettre qu'il a écrite après l'exécution de celui-ci, comprend 3 pentasyllabes qui entourent cette octosyllabe, symbole de l'attente. Nada se oye, todo es silencio, y el ruido de los cerrojos tocan a muerto. Ce moment funeste est aussi souvent associé au bruit des serrures, hein, ces cerrojos que je viens de citer, qui, lorsqu'elles s'ouvrent, sont de mauvais augure. Diego San José fait commencer ainsi cette période d'angoisse après minuit et souligne ce bruit métallique à travers une assonance en « et » dans le romancé, dans un romancé qui est de nouveau assonant en « ea », comme l'écrit hein, « ea ». Pasada la medianoche, los cerrojos de las celdas, con estrépito de hierro, en el silencio resuenan. Et dans le poème Este es mi único oficio, José Luis Gallego inonde ses vers de ces bruits carcéraux animalisés, puisque le troisième vers, beaucoup plus long, est composé de deux heptasyllabes suivis de y cerrojos. Il est comme rejeté à la fin, vous le voyez, pour mieux entrer en contraste avec le dernier vers de quatre pieds. Un mundo de paredes, un abismo de rejas, una loca y chirriante raojía de fusiles y cerrojos nos separa. Pourtant, le poème de Bleiberg cité précédemment culminait, lui, sur la négation paradoxale de l'association entre ce bruit et l'annonce des exécutions, puisque la mort était silencieuse et sournoise. Et il disait « Y no es fusilamiento, este... Llega de puntillas, todo negro como la vida misma, y nunca blanco como la muerte. » C'est peut-être, donc pardon, il ne parlait pas de la mort, mais bien de l'exécution qu'il différencie de la mort. Et c'est peut-être le poète Ildefonso Manuel Gil, que j'ai cité en dessous, qui résout ce paradoxe habilement en rappelant l'ambivalence de l'arrivée de la mort dans ses prisons, parfois silencieuse et tragique, parfois lumineuse et libératrice. S'inspirant de cette même attente de mise à mort, vécue collectivement dans le séminaire prison de Teruel à l'été 36, il évoque lui aussi le silence qui préside à ce moment interminable. Todos allí en silencio esperando la muerte. La muerte era unas veces silencio y sombra fría, inmensa mano abierta cerrándose en la nada, y se tornaba luego horizonte remoto, ventanal luminoso sobre los aires libres. Il va sans dire qu'après la rupture sonore que constitue l'ouverture des cellules pour la mise à mort, d'où le nom de saca en espagnol, hein, sortie, on assiste à l'aube à un concert de voix dissonantes. Dans le romancé Maldita Seas de Jesús Cancio, dont on a parlé avant à propos de l'autocensure, au gémissement du Judas succède la décharge qui est elle aussi animalisée, à l'instar des bourreaux, dans la version censurée. D'ailleurs, cette décharge devient la jauría, la meute. Alors, je vois que j'avais mis trois colonnes, c'est devenu une seule et vous ne pourrez pas le lire, mais vous m'écouterez. Se oyó gemir el rastrillo y por recodos y grietas entraba un olor a crimen que asfixiaba la conciencia. Y cuando el guardián de turno abrió la menguada celda, toda la noche del mundo cruzó temblando sus puertas. Donc, déjà le premier vers que j'ai lu, c'est Oyo gemir el rastrillo, c'était ce gémissement du Judas qui annonce comme les cerrojos la saca. Puis on passe peu à peu à l'exécution. Como bandadas de buitres que barruntan carne muerta. Donc vous voyez l'animalisation sous l'aspect de vautour des bourreaux qui vont mettre à mort. Entra la guardia civil y a seis compañeros lleva atados codo con codo a una capilla siniestra, puisque vous savez que les prisonniers étaient emmenés à la chapelle avant d'être exécutés pour éventuellement écrire une lettre d'adieu en bonne et due forme, bien sûr. A una capilla siniestra en la que unos malhechores de la moral evangélica, unos hombres que olvidaron de no matar la leyenda, pretenden hacer a Cristo cómplice de la sentencia. Y sonó la hora fatídica, sonó la hora fatídica. Donc, encore une fois, on voit comme il y a une rupture de ce silence. Y por las calles desiertas y entre un mundo de tricornios va de ronda la epopeya. Allí quedaron tendidos, Donc, on a une ellipse de l'exécution. Ahí quedaron tendidos 100 quijotes de una idea. Y la voz de la descarga fue tan honda, fue tan recia, que no hubo tumba vacía donde no se repitiera. Donc, même l'exécution résonne. C'est un bruit tellement traumatisant qu'elle résonne. Ahí quedaron tendidos 100 quijotes de una idea y todos ellos cayeron con elegancia suprema, que han muerto sin agonía, alta la frente serena y la garganta inflamada de cánticos de promesa. Donc je finis sur ces deux vers, y la garganta inflamada de cánticos de promesa. On voit ici, les victimes ne se taisent pas. Ici, leur gorge est enflammée de chants pleins de promesses. Ailleurs, elles lancent le dernier cri républicain en guise d'adieu aux camarades. Par exemple, dans le recueil de José Luis Gallego, Vos Ultima, qui est divisé en deux parties, l'une écrite dans l'attente de sa propre mise à mort et la seconde lorsque son ami est, lui, fusillé, comme si le recueil reflétait cette brisure émotionnelle vécue par le jeu poétique. Cependant, cette voix poétique lance une promesse de renaissance de la victime à travers le témoin qui lui survit en empruntant sa voix. Le jeu poétique accablé se relève pour recueillir la voix du défunt sous forme de points éclatants aux couleurs de l'arc-en-ciel. Y tu voz clamando, camaradas, la última en sonar. Aquí ha quedado la mía, pues le estaba destinado ser solo dos pupilas enlutadas. Tengo mis sienes, Juan, arrodilladas delante de tu sangre. Arrodillado mi corazón, reloj desencajado. Y también de rodillas mis pisadas. Mas por ti, por tu voz hecha simiente, hecha lanza, hecha luz y levadura, de hombría me levanto. Donc, vous voyez ce passage de relais de la voix qui ne s'éteint pas vraiment puisque le témoin la recueille. Dans le sonnet suivant, toujours dans Vos Ultima, qui est écrit 3 jours plus tard, ce même sujet poétique enjoint ses destinataires de tous âges à s'envelopper dans le chant de ses vaines vengeresses pour attendre le jour prochain où se briseront les chaînes. A sangre y fuego, sí, a sangre y fuego tocando están mis venas, cual campanadas, llenaos del sonido de mis venas, envolveos en él que se avecina la hora de ir por las calles por atajos, sin cerrojos, barrotes ni cadenas. Je ne l'ai pas projeté, mais vous m'avez entendu. Le poème donc qui ouvre le second cycle de Vos Ultima est également une élégie funèbre créée à partir d'une phrase de son compagnon défunt, d'un autre compagnon défunt, Mariano Colmenarejo, qui lui est fusillé en novembre 43 à Porlier. Et il prononce cette phrase au moment où il attendait sa mise à mort. Son las dos y media de la madrugada y vivo aún. Donc vous imaginez le nombre d'heures à attendre de savoir si les cerrojos vont s'ouvrir. Et donc la voix poétique est déléguée au compagnon qui au seuil de la mort se sent encerclé par cette dernière. Me ronda y me ronda y me requiebra. La littération en R des vers précédents débouche sur l'instant précis de l'exécution. Les coups de fusil, sous la forme d'une métaphore filée musicale qui, implicitement là encore, vient s'opposer à tous les bruits désagréables qui ont perturbé le silence carcéral jusque-là. Al son de una guitarra de fusiles, al fin de cuya copla estaré inerte, mas moriré gozando que fiebra en un telar de agujas juveniles. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de conclure. Le futur de cette exclamation finale donne un sens au sacrifice. Le compagnon tombe avec la fierté d'avoir contribué modestement à améliorer le destin de l'humanité. L'épopée républicaine carcérale qui émerge de ces éloges funèbres contribue ainsi à non seulement rendre leur voix et leur dignité aux victimes, mais aussi à les héroïciser, parfois par le biais d'une identification christique blasphématoire, qu'on n'a pas rencontrée ici, mais qui est très présente dans le corpus. Le Christ, il faut le rappeler, a lui aussi été mis à mort pour son humanisme, affirment les détenus, ou comme ici, via l'incrimination des bourreaux animalisés et la mise en scène du martyr du camarade pour mettre fin au silence et à l'anonymat des fosses communes. Au terme de ce parcours chronologique nocturne qui nous a mené du toque de silencio à l'aube criminelle, la rupture du silence vecteur d'espoir et de réconfort malgré les cris des sentinelles, vient mettre en relief la tragédie des exécutions sommaires, l'un des traumatismes majeurs qui émergent de ce corpus. Pour conclure, nous pourrions donc dire avec l'ultraïste Francisco Burgos Lecea que du matin au soir, la vie des prisonniers est rythmée par le même clairon qui ponctue la monotonie et le silence carcéral. La misma corneta marca nuestro amanecer y nuestra noche, nuestra voz y nuestro silencio. La nuit venue, c'est alors au tour des sentinelles de rompre ce silence, pourtant devenu bénéfique, maternel et porteur d'espoir. Enfin, l'aube apporte son lot d'exécutions qui, une fois encore, met fin au silence angoissé de l'attente et du demi-sommeil. Je pourrais poursuivre sur le destin éditorial de ces œuvres qui, elles aussi, ont tenté de rompre le silence de l'insilio pour donner voix aux absents et pour que se fassent entendre par-delà les murs les poètes témoins de cette longue nuit silencieuse que fut le premier franquisme. Mais ce fut une autre histoire de silence, tout aussi triste, que j'aurais plaisir à vous raconter si les questions s'y prêtent. Je conclurai donc sur ces mots de la psychanalyste du traumatisme Clara Valverde à propos des non-dits sur le franquisme. La que daña realmente a los descendientes de situaciones traumáticas es la ausencia de palabras, el silencio cargado de emociones. El resultado es que heredamos emociones sin palabras y palabras sin emociones. Muchas gracias.